franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, comment se crée le lien amoureux avec le sociologue Michel Bauzon.
On se déprend de soi, on se remet à l'autre et ça passe à la fois par des propos que l'on tient sur soi, par des gestes que l'on fait, par des objets que l'on fait circuler, par des cadeaux que l'on fait à l'autre, par un corps qui est abandonné à un moment donné. Donc en gros, c'est une exposition de soi. Mais exposition, pas au sens où on se montre, mais au sens où on s'expose. Et en prise sur l'autre en même temps. L'important quand on remet quelque chose de soi, un objet ou...
Un secret, une part de soi.
On touche l'autre. On espère le toucher. Si on ne l'a pas touché, on est inquiet. Ou on lui remet une musique que l'on aime. Si la musique ne lui fait rien, eh bien on est inquiet. Donc c'est ce processus-là qui se produit, mais qui, au bout de quelques temps, en effet, tend à se ralentir. Ouais. Et il faut passer, si vraiment quelque chose s'est créé, à autre chose qui n'a plus du tout la même forme.
Ouais. Réciprocité, évidemment, indispensable dans le cadre de ces échanges que vous décrivez, Michel Bauzon.
La réciprocité est la règle d'or. S'il n'y a pas de réciprocité, la remise de soi, c'est une folie, c'est un dérangement, c'est un harcèlement de la personne s'il ne répond pas. Ouais. Hein. Donc, on voit bien que c'est pas très loin de la maladie mentale dans ce cas-là.
Mais comment ça fonctionne alors, cette réciprocité dans ce jeu d'emprise sur l'autre aussi, hein, que vous décrivez, qui est sous-jacent au fond à cette remise de soi?
C'est-à-dire que la personne est touchée ou non par quelque chose qu'on lui a remis. Il est obligatoire dans ce cas-là, c'est la règle implicite, de rendre, pas forcément dans la même monnaie. Hein, on remet pas forcément la même chose. Par exemple, on vous dit un terrible secret et vous répondez en donnant un livre que vous avez aimé. Hein, bon, qui est aussi une manière de se remettre, hein, de dire quelque chose de soi. Et tant que le jeu continue à un bon rythme, ouais, on peut dire que la relation amoureuse se constitue et crée peu à peu une intimité partagée. Ouais.
Mardi, quelle différence entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique, avec Pascal Sennelard.
L'idée, c'est que dans un ordinateur classique, vous avez votre bit d'information élémentaire qui va valoir soit 0, soit 1.
C'est quoi le bit, rapidement?
Le bit, c'est le grain d'information qu'on va manipuler. C'est le petit transistor, c'est l'interrupteur dans votre ordinateur classique. D'accord? On appelle ça un bit d'information. En quantique, on appelle ça un bit quantique. Dans un ordinateur classique, ce bit va prendre la valeur 0 ou 1, ou on-off. Ou comme l'a fait introduit Schrödinger avec son chat, mort-vivant.
C'est ça, l'un ou l'autre.
En physique quantique, le système va pouvoir prendre les deux valeurs en même temps. Mm-hmm. Quand on dit les prendre les deux valeurs en même temps, c'est il va être à la fois l'un et l'autre dans n'importe quel degré. C'est-à-dire qu'il va être, si je prends l'exemple de éteint allumé, on-off, il peut être un petit peu éteint, beaucoup allumé, ou un petit peu allumé, beaucoup éteint, et dans n'importe quel degré. Et donc, en fait, cette propriété
c'est ce qu'on appelle le parallélisme quantique, en fait, qui est...
Voilà. Alors, en fait, comment on voit que ça devient parallèle? J'aurais envie de prendre l'image de... Si quelqu'un cherche à sortir d'un labyrinthe, vous mettez un humain au milieu d'un labyrinthe, il essaye de sortir, il va devoir essayer tous les chemins, puis il va prendre un petit carnet, puis il va rayer tous les chemins qu'il a essayés, puis il va garder la trace de tous les chemins, d'accord? Dans un ordinateur quantique, comme on va pouvoir superposer les différents chemins possibles...
Il va pouvoir tous les tester en même temps?
Il va pouvoir tous les tester en même temps, il va tout explorer en même temps, il va trouver du coup la sortie beaucoup plus rapidement. À la sortie, quand il sera sorti, il dira « je suis sorti », donc il vous dira « ben voilà, j'ai trouvé la solution ». Donc l'ordinateur quantique pourra faire ça de manière beaucoup plus efficace, de manière très puissante. Par contre, il ne sera pas capable de vous dire comment il a fait, il ne pourra pas retracer le chemin qu'il a suivi. Donc il y a cette espèce de parallélisme qui vient vraiment de cette superposition qu'on appelle la superposition cohérente des deux états.
C'est ça un ordinateur quantique?
Ouais, oui, c'est ça.
Oh, mais ce qui est difficile, quand vous m'avez demandé tout à l'heure quelle est la difficulté, eh bien c'est précisément de la conserver, cette superposition cohérente. Quand vous en avez un, donc Pascal a des systèmes comme ça au laboratoire, on en a dans notre laboratoire, on arrive à garder cette information pour les meilleurs laboratoires une seconde. Mais quand vous faites grossir la taille du système, cette superposition, elle s'effondre comme le nombre de particules que vous mettez dedans. Donc du coup, très rapidement, ça devient très fragile et vous perdez la puissance de ces corrélations.
Mercredi, qu'est-ce que l'intelligence ? Avec Christian Philibert.
Il m'arrive de penser que l'intelligence, c'est un peu comme ce qu'était autrefois, toute proportion gardée, l'Olympe. C'est-à-dire, ce qu'on n'arrivait pas à expliquer, on disait, ben voilà, c'est l'Olympe. Et au fond, l'humanité est passée peu à peu de Vulcain au mécanisme des volcans ou de Neptune à la compréhension des tempêtes. Et donc, aujourd'hui, on a appelé intelligence ce qu'on n'arrivait pas forcément à voir clairement. Et donc, on lui a donné tout un tas de formes tout à fait différentes. Je pense qu'aujourd'hui, les neurosciences, par exemple, arrivent notamment autour des sciences cognitives, autour des fonctions cognitives, à éclairer les choses et à permettre justement des ponts entre les éléments. C'est-à-dire, alors, on appelle fonction cognitive le langage, la mémoire, les mécanismes attentionnels, le fait qu'on soit capable de reconnaître avec le toucher un certain nombre d'objets. Ces éléments-là s'appellent les gnosies, c'est un nom un peu spécifique. Mais on pourrait prendre un exemple. Est-ce qu'au fond, on n'est pas intelligent en jouant avec l'ensemble de ces éléments-là ? Imaginez par exemple que aujourd'hui, 16 mars, ce soit votre anniversaire.
Non, c'est dans deux jours. Mais oui,
c'est pas très loin.
C'est bien, on n'est pas loin.
Et donc, c'est votre anniversaire et vous recevez un chèque, des cartes cadeaux, etc. Et au moment où tout ça se passe, on voit bien que la mémoire qu'on croyait être quelque chose qui nous permettait simplement de voyager dans le passé va au contraire nous permettre de voyager dans demain, dans l'avenir. C'est-à-dire que dans un cas comme celui-ci, soit on va se dire, par exemple, je vais m'acheter, je sais pas quoi, les sacs, le sac ou les chaussures que j'ai vues il y a 8 jours. Mais on pourrait aussi imaginer que vous vous êtes dit, tiens, je vais aller en vacances cet été à Milan. Mais avec cette somme qui arrive là, je vais pouvoir refaire un tour en Toscane que j'ai découvert une fois et je voudrais aller un peu plus loin, etc. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des stratégies très complexes, du temps, de la façon dont on va se dire comment je vais modifier mes billets d'avion, mon voyage, etc. Et donc c'est ce jeu-là entre eux, tous ces éléments-là, fait qu'à la fois ce voyage, par exemple, de la mémoire, à la fois dans le passé et dans l'avenir, nous donne des possibilités en permanence d'utiliser notre intelligence pour être capable d'avoir des intuitions ou au contraire de s'appuyer sur l'expérience.
Jeudi, la phagothérapie peut-elle agir avec rapidité et efficacité contre les staphylocoques dorés ? Alain Dublanchet.
Oui, c'est extrêmement rapide. Mike Hirschberg a expliqué qu'à partir d'un bactériophage colonisant son hôte, où on a environ 10, enfin plusieurs dizaines de bactériophages, mais ça, il a oublié de dire que c'est en une demi-heure. Donc vous voyez que c'est exponentiel.
Une prolifération très rapide.
Voilà, absolument. C'est une véritable explosion atomique, en quelque sorte, pour une colonie bactérienne. Vous avez un tube dans lequel vous mettez des bactéries, vous mettez une goutte de bactériophage, vous revenez 4 heures après, tout est éclairci, il n'y a plus de bactéries, quand ça fonctionne bien. Ça ne fonctionne pas toujours parfaitement bien.
Mathieu demande, est-ce que certains phages ont un impact sur le staphylocoque doré?
Oh ben ça, c'est mon domaine de prédilection, parce que ça marche, c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé et que je travaille encore, et c'était vraiment très très efficace, donc ça oui. Et en particulier ceux qui viennent de Russie, je rapporte non pas de la vodka, mais des bactériophages de Moscou, et je peux vous dire qu'ils marchent
bien. L'eau croupie mieux que la vodka, en tout cas, pour aider vraiment les patients. Vous avez dit quelque chose de très important, Alain Dublanchet, au détour d'une phrase. Il faut associer la phagothérapie à l'antibiothérapie.
Alors je pense...
C'est pas l'un contre l'autre, hein, faut qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de se dire.
Voilà, donc je dis que je m'insurge contre beaucoup de choses. Alternative, on entend souvent ça. Phagothérapie, une alternative possible à l'antibiothérapie. Ouais. À mon avis, c'est une grosse erreur de vouloir introduire cette façon de voir. Je crois qu'il faut le voir comme un complément, parce qu'on a des synergies entre les deux. Et on le sait, on l'a vu in vitro très tôt. Mmh. En 1945-46, un Américain dans une revue internationale, le Lancet, avait montré ça. Pénicilline plus bactériophage anti-staphylocoque est beaucoup plus efficace que l'un ou l'autre isolé. Donc on aurait tort de s'en priver.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.